Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team. Comme vous le savez sans doute, le FC Stream Team est une émission 1 de qualité, 2 d'information et parfois de breaking news. Alors, j'avais préparé quelque chose sur l'intro qui allait avoir quelque chose en rapport avec l'un des sujets dont on va parler. Je voulais demander à Martin, écoute, tu comprends que Messi ou Benzema aient peut-être envie d'aller en Arabie Saoudite et toi, pour quelle somme tu serais prêt à aller bosser en Arabie Saoudite pendant mai? Il s'est passé quelque chose à 2 secondes du début d'émission qui a changé complètement mes plans. Martin m'a dit que dimanche, si je ne me trompe.
Oui, c'est dimanche. Non, demain, samedi.
Demain, donc samedi, il devait aller faire une séance de, écoutez bien, une séance de fit volley. Alors Martin, un, qu'est-ce que c'est et deux, pourquoi?
Je sais pas. Alors justement, j'étais en train de regarder une vidéo YouTube de fit volley. En fait, c'est des gens qui font du yoga avec des ballons de volley. Et après, tu joues avec des énormes ballons de volley. Pff, non, ça a l'air pourri. Mais,
J'espère que personne t'écoute.
Non, ouais, ça a l'air tout naze. Mais en fait, ouais, c'est les séances de sport de mon fils qui est tout petit. Et puis à la fin de l'année, tu peux y participer. Et j'avais vu volley, ça m'intéressait beaucoup parce que j'adore jouer au volley. Mais fit volley, ça a l'air beaucoup moins intéressant. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent le fit volley. Venez en parler sous
le sceau de l'anonymat.
Ouais, sous le sceau de l'anonymat sur Apple Podcast ou je ne sais où sur Twitter. Mais ça a l'air déprimant en fait.
Bah, je sais pas, mais j'ai
appris ça. En fait, c'est des gens qui veulent faire du sport, mais j'ai l'impression qu'ils aiment pas le sport. Tu vois,
Je me dis, t'as le ballon, je comprends le volley. Tu fais des réceptions, ça fait mal au poignet. Tu dis, bon, on va éviter ça du côté du volley, on va regarder le filet. Et ouais, le ballon pour se passer, ouais. Je sais pas, donc c'est un grand mystère.
Mais il faut arrêter de changer les sports.
Voilà. Et ton fils, il fait quoi comme sport?
Bon, il fait un peu tout.
Multisport. Ouais, multisport. En gros, c'est pour faire de courir les gamins et les faire dormir.
Exactement. Voilà. Ouais, c'est ça, pour canaliser leur énergie, ouais. On dit Maxime. Quand on est bienveillant.
Alors, je suis bienveillant, mais j'ai aussi entendu Antoine Le Breton, qui est à la réalisation, qui m'a parlé que c'était un sport, le fit volley, qui lui faisait penser au yoga bière.
Alors ça, c'est autre chose. Là, on s'éloigne plus en plus du sport.
Mais surtout, j'ai du mal à saisir. C'est-à-dire que tu fais une posture de yoga. Et derrière, tu t'enfiles un demi.
Voilà, c'est ça.
T'es bourré au bout de 2 minutes, en gros.
Enfin, toi, Maxime. Parce que, alors, un secret que... Alors, si vous écoutez la Stream Team, ça fait quand même 7 ans. Ça fait 7 ans, Maxime, qu'on fait le Stream Team. C'est peut-être 7 ans aujourd'hui. Non, c'était au mois d'avril,
je crois.
Donc 7 ans, et s'il y a encore quelque chose que vous ne savez pas sur Maxime, sachez qu'il ne tient pas l'alcool. Boire avec modération, évidemment, mais toi, c'est toujours avec modération.
Bah oui, parce que de toute façon,
même avec modération, ou toi,
Je ne bois pas, ou peu, un peu plus, c'est vrai.
C'est un problème d'enzyme, tout ça, Maxime.
Non, ouais, je sais pas. Mais en fait, non, mais c'est comme tout, c'est l'entraînement. Hein. Quand tu cours, au bout d'un moment, tu cours plus vite, tu cours plus longtemps. Bah, si je buvais plus, en fait, c'est ça, il faut passer le coma éthylique.
C'est vendredi confession là. Ouais.
Non, mais voilà, je bois un peu d'alcool, mais c'est vrai que je ne tiens absolument pas à l'alcool. Mais je n'ai pas l'alcool méchant, j'ai l'alcool rieur. Mais
bon. Cible sur la tête.
Non, quand même pas. J'arrive
dans les fesses.
Je ne suis jamais arrivé jusque-là. Mais bon, voilà. Bon.
on va arrêter là, on va arrêter
tout
le matin.
Ça à cause d'une histoire de yoga bière et de fit volley. Voilà. Ouais. Donc, on va démarrer cette émission. Comme tu l'as dit, Martin, vous pouvez retrouver tous les meilleurs moments. Non, tu ne l'as pas dit, mais je vais quand même le dire.
Non, je
ne
suis
pas sous sur le
pourtant,
site.
Pourtant, tu as une plume dans les fesses.
Les trois extraits qu'on vous met habituellement sur les sujets dont on va parler, qui vous retrouverez évidemment sur le site.
Mais venez nous mettre des commentaires, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de commentaires.
Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé aussi.
Oui, c'est vrai.
C'est tout à fait honnête.
Mais sur Apple Podcast, je ne sais pas si sur les autres plateformes, on peut mettre des commentaires.
Ça dépend lesquels, mais sur Apple Podcast, où je sais que Spotify, ce n'est pas possible. On peut noter toujours, mais pas mettre des commentaires.
Mais notez bien.
Venez nous voir sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Autant vous dire qu'on ne répond pas aux insultes.
Moi, je réponds aux insultes. Maxime, il est...
J'ai souvent
très
envie.
Tu es très susceptible, toi.
Je suis très susceptible.
Maxime,
non, mais surtout,
très, très sous polaire.
Et il y a eu 2-3 fois où j'ai eu très envie de répondre, mais je me suis dit, non, Maxime, il faut que tu te retiennes. Donc voilà, je suis très, très susceptible et je peux vite monter dans les tours. Premier sujet de l'émission, on va parler du Paris Saint-Germain, non pas du 11e titre de champion de France, qui sera célébré, enfin célébré de manière un peu particulière, puisqu'on sait que Sergio Rico est actuellement dans un état grave à l'hôpital suite à son accident de cheval de dimanche dernier. Mais on va se poser la question quand même d'aller regarder vers le mercato. Et on a appris jeudi que Asensio était sur la route du PSG. Bah, la question, elle est un peu classique, mais est-ce que Asensio ressemble au joueur dont a besoin le Paris Saint-Germain pour se renforcer?
Ensuite, on parlera de l'Olympique de Marseille. Igor Tudor a annoncé jeudi qu'il quittait l'OM. Il entretient une sorte vraiment d'instabilité chronique des entraîneurs sur le banc de l'Olympique de Marseille. On se demandera à qui la faute. Pourquoi, diable, les entraîneurs de Marseille ne restent-ils pas plus d'une saison, une saison et demie, quoi.
Et le dernier sujet, ce ne sera pas pourquoi diable, mais pourquoi diantre veulent-ils tous y aller? Évidemment, tous, a priori du moins. Pourquoi l'Arabie Saoudite a très envie aussi de ces joueurs-là? Bah, c'est un peu le nouvel Eldorado, l'Arabie Saoudite. On va essayer de décrypter un peu pourquoi et pour quelles raisons les joueurs auraient intérêt à y aller. Et pourquoi justement l'Arabie Saoudite a poussé cette offensive qui est sans commune mesure dans l'histoire du football.
Pourquoi j'ai une petite réponse qui me vient en tête là.
Ah oui, je pense que j'ai la même.
Sonnante et trébuchante. On démarre, Maxime ?
On démarre. Ben on y va.
Bon, on y va, c'est parti, allez, on y va. On démarre.
Vous l'avez appris jeudi, Asensio, le joueur du Real Madrid, est sur les tablettes du Paris Saint-Germain, et même un peu plus que ça, puisqu'a priori, il serait parti pour rejoindre le club de la capitale l'été prochain. Alors la question, Martin, on ne va pas faire patienter les gens. Est-ce que Marco Asensio est une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain?
Eh ben, on ne va pas faire attendre les gens, non. Voilà, c'est la recrue caricature. La recrue caricature du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'il regroupe à peu près tout ce qu'il ne faut pas, mais tout ce que Paris aime bien. C'est un joueur inconstant, qui a tendance à disparaître dans les grands matchs et qui n'a pas réussi à s'imposer au Real Madrid, qui ne fait d'ailleurs rien pour le retenir, a priori. C'est un attaquant qui n'a pas un goût immodéré pour le repli défensif. Il est même plutôt léger quand il s'agit de défendre. Donc, par contre, effectivement, il peut faire des différences balles aux pieds, ça, il n'y a pas de problème. Un joueur qui ne brille pas dans les grands rendez-vous, ça, je l'ai dit. Et cerise sur le gâteau, c'est un joueur aussi très exposé aux blessures. Donc, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi Asensio réussirait là où Lo Celso, Sarabia, Draxler ont échoué. Et j'oubliais quand même un dernier truc. C'est un joueur qui coûte très cher aussi.
Ouais,
entre 8 et 10 millions d'euros de salaire. Voilà, le Real en proposait 5. À un moment, il faut se poser les questions. Pourquoi le Real en proposait que 5 et le Real ne l'a pas retenu? Peut-être pour toutes les raisons que j'ai citées avant.
Et qu'il est exposé aussi aux soirées parisiennes.
Il y a ça aussi. C'est un joueur qui aime bien, disons-le, faire la fête. Alors, on ne va pas l'enterrer tout de suite avant qu'il n'arrive.
Ouais, parce que là, c'est...
ouais, effectivement. Non, mais c'est un super joueur, hein, au-delà de ça. Mais disons que c'est le portrait robot du joueur qui ne réussira pas au Paris Saint-Germain.
Ouais, alors je ne vais pas l'enterrer non plus, mais je vais essayer de me poser la question, de mettre dans la peau des dirigeants parisiens et de réfléchir au pourquoi du comment ce joueur, comme tu l'as dit, il a ce côté caricatural de la recrue parisienne. Alors encore une fois, ça ne dit pas ce qu'il va faire, mais c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi lui, pourquoi maintenant? Alors, il y a évidemment le côté gratuit. Oui, ça peut se tenir. Mais si le PSG s'était arrêté au prix des joueurs depuis le début de l'arrivée de QSI et avait fait attention au fair play financier, ça se saurait. Voilà, déjà. Donc, c'est que le profil doit intéresser Luis Campos. On découvre qu'il est associé à Jorge Mendes, Asensio. Donc, on se dit aussi que Luis Campos, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être le contraire de ce qu'il faudrait faire à un moment dans un club de la stature du PSG, c'est de sortir des réseaux, des canaux habituels et d'élargir le champ de vision. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il manque du monde pour faire du scoutisme au PSG, pour regarder les joueurs? Parce que mettre ça entre les mains de Luis Campos, qui, je le répète, n'est pas techniquement salarié du club, enfin directement dans l'organigramme, qui est aussi avec le Celta Vigo, alors je le répète toutes les semaines à chaque fois que j'en parle, ce qui me paraît surréaliste à ce niveau-là. Imaginez quand même le Bayern Munich qui partagerait, il n'y a plus de directeur sportif depuis le départ de Salihamidzic, mais imaginez Salihamidzic avec un autre club. C'est impossible, voilà. Et en fait, on a l'impression que c'est une solution non pas de facilité, mais on a se demandé si Mendes n'a pas dit, tiens, écoute, il y a Asensio, c'est pas mal, vous ne voudriez pas le prendre. Tu as parlé du prix. Le Real lui proposait a priori sur la prolongation 4,5 millions d'euros. Le PSG irait jusqu'à proposer 10 millions.
Ouais, c'est entre 8 et 10 selon les sources.
Ouais, mais dans quel monde on paye Asensio à ce prix-là? Surtout quand vous savez que le club précédent va le payer, ben payez le 5 à la rigueur, si vous voulez monter un peu les enchères, le convaincre. En fait, rien que ça, il n'y a rien qui va. Ensuite, il y a ce dont on parlait la semaine dernière, justement, on parlait des recrues du PSG. Et moi, je tiens à ça, c'est-à-dire que le côté calibrage du joueur. Je pense que les recrues de Campos, façon Fabian Ruiz, Carlos Soler, c'est des joueurs qui ne sont pas calibrés pour le PSG. Calibré pour le PSG, à mon avis, c'est quelqu'un qui vient d'un club installé, le Real Madrid en est un, mais si possible avec un joueur qui est aussi installé et qui fait des choses intéressantes dans ce club-là. Or, Asensio, il vient du club installé, mais les choses intéressantes, on y a cru un moment, souvenez-vous quand il est espoir, souvenez-vous l'Euro 2017, son triplé contre la Macédoine, on le voit gros comme une maison, ça va être un super joueur. Or, sur le chemin, il s'est un peu perdu.
Il a 27 ans aujourd'hui.
Quand même. Et oui, voilà, il a 27 ans, c'est plus le joueur de 23-24 ans, c'est un joueur... On dit, alors ça dépend des joueurs, mais on dit qu'on arrive à peu près dans notre prime de la carrière, au sommet, à peu près à ce moment-là. Je pense qu'il n'y est pas, enfin j'espère pour lui.
J'espère pour lui. Il y a autre chose, c'est que c'est un joueur qui a eu moult occasions de briller dans les grosses affiches, parce qu'il n'y a pas un club qui a joué plus de grands matchs que le Real Madrid sur les 10 dernières années. Et ça tombe bien, il était là-bas. Qu'est-ce qu'on regarde en décortiquant un peu ces feuilles de match? Alors on voit qu'en Liga, il est souvent remplaçant, mais il peut aussi être titulaire. Il marque souvent face à des équipes petites ou moyennes. En Ligue des Champions, depuis les huitièmes de finale, hein, parce qu'il a joué les derniers matchs, mais où il y avait moins d'enjeux. En Ligue des Champions, depuis les huitièmes de finale, donc je rappelle que le Real est quand même allé jusqu'en demi, donc il y a eu 6 matchs, il a joué 66 minutes. 66 minutes en 6 matchs. Voilà, ça dit tout de la confiance que lui accorde Carlo Ancelotti dans les moments qui comptent. Or, Paris... pour grandir, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de joueurs qui prennent leurs responsabilités dans les moments qui comptent, parce que c'est ce qui leur a manqué ces dernières années. Voilà. Un joueur qui est là, qui porte le collectif, qui va secouer un peu les têtes, qui va laver aussi les têtes. Asensio, c'est tout sauf ça. Ouais. Asensio, alors, encore une fois, en sortie de banc, même titulaire en Ligue 1, il va faire plus de différence qu'Ekitike, plus de différence que Soler, il va faire plus de différence que Sarabia, que voilà. Mais est-ce qu'il sera plus utile au Paris Saint-Germain pour autant? Pour moi, de ce que j'ai vu jusqu'ici, c'est non la réponse.
Et j'entends l'argument auquel vous pensez, je suis sûr, à ce moment-là en nous écoutant, c'est que oui, mais bon, le Paris Saint-Germain manque de profondeur sur le banc. Ce qu'on a entendu toute cette année. Alors ça, déjà, je trouve que c'est un peu léger, parce qu'il suffisait de mettre... quand il était là, Neymar sur le banc, vous auriez de la profondeur tout de suite. Il suffit de ne pas faire jouer les trois en même temps. Bon, bref. En tout cas, c'est sûr que vous ne pouvez pas mettre vos œufs dans le même panier. Alors, très bien. Imaginons qu'Asensio arrive pour donner de la profondeur au banc. OK. Mais c'est qui est devant lui maintenant? C'est pas Messi. Il s'en va. Neymar, le PSG espère s'en débarrasser. Donc, en gros, il n'y aurait que Mbappé. Donc, il manque toujours ce joueur de très gros calibre, le Bernardo Silva, oui. Par exemple. Si c'est lui, là, oui. Mais ça fait toujours bizarre de se dire qu'ils s'attaquent à ce sujet-là avant. J'ai l'impression qu'avant, ils sont en train de construire le toit, entre guillemets, ou mettre la boîte aux lettres avant de faire les fondations de la maison. Et ça fait toujours un peu bizarre.
Parce qu'il n'y a toujours pas d'entraîneur aussi.
Il n'y a toujours pas. Enfin, techniquement, il y en a un.
Ouais, oui.
Et je pensais au Real Madrid. Je me dis, mais à un moment, quand je parle de mes joueurs calibrés pour un club de taille et qui ferait du bien au PSG, je pensais, évidemment, c'est un exemple, ce n'est pas forcément footballistiquement ce qui compte, ce qu'il faudrait, mais. Pourquoi le PSG ne s'attaque jamais à des joueurs comme un Toni Kroos, par exemple? En vrai, le PSG a besoin de ces joueurs-là. Au lieu d'aller dépenser 60-70 millions sur parfois des inconnus ou des mecs en devenir sur des paris, il faut aller chercher ce joueur calibré qui permet de gagner, qui fait gagner et qui va avoir une éthique de travail.
Qui sait gagner.
Et qui sait gagner, voilà. À un moment, en fait, c'est la question que je me pose. Pourquoi le Paris Saint-Germain est capable de dépenser des sommes dingues sur des joueurs en devenir? Alors, quand ça marche, très bien. Quand c'est Mbappé, c'est parfait. Sauf que Mbappé, il n'y en a pas de toutes les rues. D'aller chercher ce joueur-là dans la force de l'âge qui, lui, sait gagner, sait faire gagner. En fait, le PSG, il y a un peu un trou noir entre le jeune qui monte, qui en espère, et le vieux qui redescend, le Sergio Ramos. Voilà. Au milieu, le recrutement, il n'existe quasiment pas. On en parlait tout à l'heure. Asensio, ça me fait penser à Drexler, par exemple.
Ah, mais pour moi, c'est exactement ça. C'est le même profil.
Alors, Drexler, il est acheté pour être plus haut. Et normalement, ça doit aller plus haut. Ouais. Mais il se perd à Paris.
Et tu verras qu'on n'est pas à l'abri, on ressortira peut-être cette vidéo, mais que dans 2-3 ans, on dise ici, bah ouais, mais le contrat d'Asensio, il empêche Paris d'investir sur temps. Et puis de toute façon, Asensio, il veut pas partir parce qu'il a un salaire énorme, on lui proposera pas. Voilà, ça risque d'être encore un enterrement de première classe, comme ce le fut pour Draxler, comme ce le fut pour tant d'autres. Parce qu'à Paris, quand tu arrives déjà et que tu es remplaçant, on sait le destin qui t'attend. Et je pense que ça va être compliqué pour Asensio qui, voilà, si je devais tracer un parallèle entre Asensio et une autre recrue ces dernières années du Paris Saint-Germain, ça me fait beaucoup penser au cas Draxler.
Et en plus, j'ajouterais quelque chose sur l'histoire du banc et de la profondeur. Il faut acheter, que Paris doit acheter que des titulaires en puissance. Et après, il y a une, sélection naturelle. Regardez ce que fait Guardiola avec City. C'est-à-dire, je pense que c'est un des mecs qui gère le mieux son effectif. Pourquoi ? Parce que des joueurs parfois disparaissent, reviennent. Il sait très bien jouer avec les états de forme de chacun, avec des équipes types qui ne se ressemblent pas. L'équipe type du PSG du 1er août à maintenant, c'est oui, kiff la même, voilà. Alors, évidemment, sauf les blessures. Et bah, regardez une équipe comme City où pendant l'année, il va y avoir des moments où il va jouer avec les états de forme de chacun, justement pour ressortir des gens du chapeau et des gens qu'on n'attendait pas en début de saison. Voilà. Ça, le problème, le Paris Saint-Germain n'arrive pas à le faire. Pourquoi ? Parce que justement, je pense que c'est vraiment dans le calibrage des recrues, soit dans... On a l'impression qu'ils ont des cases où les joueurs doivent rentrer. Lui, ça va être pour la profondeur de banc. Lui, c'est pour l'expérience. Ben non, mais essayer d'avoir un peu tout d'un coup, tout simplement. Surtout au prix où le Paris Saint-Germain paye ses joueurs.
Allez, on va passer au deuxième sujet de cette émission et on va parler du grand turnover sur le banc de l'Olympique de Marseille. Jeudi, Igor Tudor a annoncé que c'était terminé, qu'il quittait l'Olympique de Marseille. Il n'en a pas vraiment donné les raisons précises, si ce n'est que il a avancé des raisons personnelles. Donc voilà, c'est très difficile à décrypter. Mais de toute façon, quand on regarde le passif, Villas-Boas n'était resté que de mai 2019 à février 2021, Sampaoli de mars 2021 à juillet 2022, et donc Tudor de 2022 à juin 2023. Maxime, cette instabilité au poste d'entraîneur, je sais que ça te hérisse un peu le poil. À qui la faute ?
Alors, je pense que déjà, il faut prendre un peu de recul sur le cas Tudor et de rappeler que l'Olympique de Marseille est un club extrêmement instable sur son banc parce que c'est une forme d'ADN, c'est de la passion, l'excès parfois. J'étais au stade Vélodrome.
L'impatience aussi, je dirais.
L'impatience, j'étais au stade Vélodrome samedi dernier. L'ambiance dans le stade pour un match qui... Alors, il y avait les célébrations du 26 mai 93, mais pour un match qui comptait pour du beurre, il faut imaginer ce que c'est, le bruit et toute l'attente qu'il y a autour du club. Et quand il y a de l'enjeu, il faut imaginer ce que c'est en plus. Donc, il y a un club qui est incroyable, qui vit pour ça et qui est dans l'excès, tout simplement. Depuis 1945, il y a trois hommes, trois entraîneurs qui sont restés sur le banc trois saisons entières, au moins trois saisons entières. Ce qui est surréaliste.
Ah oui, c'est surréaliste.
C'est à l'échelle de la Ligue 1, je pense qu'on trouve ça nulle part ailleurs. Alors, Roland Gransart au début des années 80, Henri Rosler et évidemment Didier Deschamps. Didier Deschamps, c'est le plus proche d'entre nous. Souvenez-vous, comme il a quitté l'OM, dans quel état il était ?
Physique.
Physique, exténué. Et souvenez-vous aussi qu'au moment où on lui propose l'équipe de France, il laisse entendre qu'il en a envie, mais qu'il a besoin de réfléchir pour dire dans quel état émotionnel il était. Et pourtant, Marseille, il connaît. Il a gagné avec eux en tant que joueur, entraîneur. Déjà, à la base, Marseille, c'est pas comme ailleurs et c'est plus dur qu'ailleurs. Moi, ce qui me turlupine un petit peu, dans le cas des deux derniers, c'est-à-dire Sampaoli et Tudor, c'est que ce sont deux entraîneurs qui quittent le club sur des... Alors, on va en reparler de Tudor, on pourra redire certaines choses, sur des réussites. L'OM sur le podium deux fois de suite, ce n'était plus arrivé depuis Deschamps. Bon, il y avait la période Gareth Deschamps où ils enchaînaient les podiums tous les ans pendant 4 ans, il me semble. Donc, c'est des hommes qui décident à un moment d'arrêter. Sampaoli, il arrête parce qu'il demande plus. Parce que je comprends aussi ce qu'il y a derrière quand il demande plus. Alors, évidemment, demander Griezmann, bah oui, tout le monde voudrait Griezmann à l'OM, sauf qu'il ne viendra pas à l'OM. Pourquoi il demande plus ? Parce qu'il sait que ça va être plus dur déjà et que l'exigence de Marseille étant telle, il faut beaucoup plus pour aller plus loin. On peut le comprendre. Après, je pense qu'il aurait pu mettre un peu d'eau dans son vin et aller plus bas. Tudor, lui, c'est un cas encore à part parce que lui, il ne demandait pas plus. Sinon, un peu plus d'affection, j'ai envie de dire. Mais étant donné que ce n'est pas un homme à en donner forcément, c'était compliqué. Et vraiment, Tudor est un cas à part. Mais quand vous tirez la ficelle des 60-70 dernières années, Raymond Gotha, l'entraîneur des champions d'Europe, il fait trois saisons à l'OM, il ne démarre jamais la saison. À chaque fin de saison, il dit « j'arrête ». Et à chaque fois, il revient à l'automne parce qu'on a besoin de lui. Donc, c'est vraiment un club à part, quoi qu'on veuille. C'est ça, le fameux ADN.
Ce qui est certain, c'est que Villas-Boas et Sampaoli, comme tu l'as dit, s'étaient heurtés à l'intransigeance de Longoria. qui ne voulait pas faire exploser les lignes de son budget. Ce qui est certain aussi, tu l'as dit, c'est que Marseille use. Après, je pense que contrairement à Sampaoli et Villas-Boas, Longoria, il va regretter Tudor. C'est un choix qu'il n'aurait pas fait. Pour autant, pour moi, le fait que ça se succède comme ça aussi vite sur le banc de Marseille, c'est pas forcément un point faible. Et c'est même peut-être une preuve de la modernité du club. Parce que Marseille ne cède pas aux exigences des coachs. Je parle de Villas-Boas et Sampaoli. Parce que le patron est au-dessus du coach. Et que dans ce club-là, il y a une vraie vision qui est incarnée par un homme, qui n'est pas le coach donc, qui n'est même pas la star de l'effectif. La star à l'OM, ou en tout cas, pas la star, mais le cerveau, c'est Longoria. Et donc, ce n'est pas dramatique que les entraîneurs se succèdent parce que ça montre aussi qu'il y a un cap qui est fixé, qu'il y a un cadre qui est fixé. Alors, dans le cas de Longoria, dans le cadre de Tudor, c'est peut-être un peu différent. Mais en tout cas, voilà, il y a des règles du jeu. Tu les suis ou tu ne les suis pas. Et peu importe si tu es un entraîneur hyper populaire, que tu t'es mis le Vélodrome dans la poche, que tout le monde chante tes louanges, et là, je pense à Sampaoli, peu importe. Moi, je suis intransigeant, je suis Longoria. Je sais ce que je veux pour mon club. Et c'est un hall de gare. Je l'assume, c'est comme ça. Mais parce que je sais où je veux aller et je sais les moyens que je veux mettre en œuvre et en place pour aller jusque là-bas. Et je trouve qu'à cet égard, c'est une forme de modernité parce qu'on on résiste parfois au populisme ou aux exigences d'entraîneurs qui peuvent parfois déborder du cadre du club.
Je ne peux pas te donner tort sur le cas Sampaoli, par exemple. Comme tu dis, il y a une ligne qui est donnée. Après, la ligne Longoria, c'est quand même le mouvement perpétuel. Oui. Alors, on va me dire que oui, c'est sur le terrain. Et l'année dernière, 13 arrivées, 14 départs, ou le contraire. Enfin, cette ligne-là, enfin, je pense qu'il n'est pas dérangé par le changement. Voilà. Et je pense qu'à un moment, il faut se méfier parce qu'il ne trouvera pas une perle rare tous les ans. Alors,
je pense que lui peut trouver une perle rare tous les ans. En tout cas, s'il y a un président qui peut trouver une perle rare tous les ans.
Mais si le prochain, il fait quatrième du championnat, on se rappellera que Tudor, c'est pas si mal.
Bien sûr, mais c'est Villas-Boas. Tudor est une réussite. Sampaoli, c'est une réussite. Tudor, c'est une réussite.
Oui, mais le problème, c'est que Tudor n'avait pas d'exigence, au fond.
On avait une exigence de résultat, terminé sur le podium.
Oui, mais ce que je veux dire, là, il ne part pas parce que.
Ah oui, d'accord, pardon.
Tudor, il est gentil, Tudor. On se doute bien ce qu'il attend, c'est la Juve. Mais je pense que Tudor, le problème. En fait, le Tudor est un problème vraiment à part parce que je vais prendre deux coachs qui ont été adorés ou étaient clivants d'une certaine manière. Vous allez me dire de loin, ça vous paraît bizarre, mais c'est Bielsa et lui. Bielsa était adoré par le public, par les supporters de l'OM. C'est un amour sans faille. Alors, c'est peut-être une minorité qui ne l'appréciait pas, mais en tout cas, la grande majorité l'aimait. En revanche, il était assez critiqué par la presse. C'est-à-dire, c'est la presse ou même ses pairs, c'est-à-dire les entraîneurs français. Vous savez qu'il y a toujours un côté cocorico qui a un petit peu disparu ces derniers temps, mais qui avait ce côté-là. Et la presse était beaucoup plus critique, on va dire, par les manquements parfois. Après l'enflammade des 5-6 premiers mois, c'était plus difficile. Tudor, lui, c'est différent parce qu'il a eu ses détracteurs et ses fans dans les deux camps, en fait. C'est ça qui est bizarre. C'est que lui, il a clivé un peu tout le monde en même temps. Et ce qui est vrai avec Tudor, c'est qu'il aurait sans doute... Je ne sais pas si un autre aurait fait mieux, mais on pouvait faire différemment. Voilà. Et je pense que Tudor, lui, était fatigué par ça, par le côté aussi, au-delà d'attendre la Juventus, certainement, de se dire, bon... C'est éreintant parce que c'est quand même un combat qu'il a mené face à ses joueurs. Il a été très bien soutenu.
Face au public au début aussi.
Face au public. Et même, alors pour le coup, je reviens avec samedi dernier, quand son nom est annoncé, c'est pas l'ovation quand même. Mmh. Voilà. Donc jusqu'au bout, il y aura eu ça. Et c'est paradoxal parce qu'on est quand même au cœur d'une saison où le Vélodrome a dû être à peu près plein à chaque fois. Mmh. Où il y a eu de la passion.
Ouais, où il y a eu une vraie alchimie entre l'équipe et les supporters.
Mais lui, ça n'a pas fonctionné. Alors c'est vrai que hier, on a eu l'impression de le voir sourire pour la première fois en conf de presse. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui a manqué. Il a manqué un sourire. C'est un peu comme à l'époque, au PSG, il manque un sourire, c'était Arthur Georges. Et bien là, c'est peut-être ce sourire-là. Mais pourtant, il a réussi à faire quelque chose, parce que je le répète, l'effectif, quand même, au départ, il n'est pas dingo. Son tort, à mon avis, c'est d'avoir mal géré certains cas, notamment Matteo Guendouzi, qui a été.
Ça, t'as pas aimé.
Ben oui, parce que.
T'as pas aimé. T'es chanchon.
Non, mais je pense que justement, dans l'acceptation du public, il y avait aussi ça. Alors, Payet, c'est peut-être plus compliqué. Pour des raisons physiques, de le faire rentrer. Mais Guendouzi avait quelque chose qui représentait l'âme marseillaise. Et finalement, en le mettant un peu de côté ou en le mettant à un poste qui n'est pas le sien, c'était une manière de dire on sort un peu de ça. Donc voilà, je pense que, en tout cas, pour conclure là-dessus, que tu disais, moi, je pense que c'est quand même un problème de changer de coach tous les ans. Enfin, j'ai pas d'exemple de club qui réussisse sur le long terme en changeant de coach tous les ans, tout simplement.
À Marseille ?
Mais sur le long terme. Oui. Ils font deux fois, deux qualifs en C1, c'est bien. Mais si alors, je vais pas dire le contraire.
À l'échelle de Marseille sur les 20 dernières années, c'est très bien.
Ah, bah oui, évidemment. Alors, sur les 20 dernières années, mais au moins les 10. Ça, d'accord. Non, mais je suis d'accord. Après, je vais te dire aussi, là, si je me fais l'avocat du diable, c'est absolument pas ce que je pense. Je te dirais que, bah oui, cette année, ils sont deuxième avec Sampoli. Là, ils sont troisième avec Tudor. Évidemment, il y a Lens, tout ça. Mais et en Ligue des Champions, ils passent toujours pas. Donc, je peux aussi te dire, bah oui, mais ça n'avance pas forcément. Et c'est peut-être aussi qu'il y a Lens qui a surperformé, mais que derrière, il n'y a pas eu grand-chose pour venir titiller Marseille. C'est pas ce que je pense, mais on pourrait dire ça aussi. Moi, je pense qu'il y a un moment, enfin, ça se saurait si pour réussir autre chose que des coups, il faut un entraîneur qui ne dure pas. Voilà, moi, c'est mon avis. Comme par hasard, les dernières fois que l'OM a gagné des titres, l'entraîneur est resté 3 ans.
Mais je pense que
il n'y a pas le PSG, il n'y a pas que
ouais, voilà. Mais bon. Voilà. Mais moi, je pense qu'en tout cas, c'est un signe de modernité de l'Olympique de Marseille.
T'es dans le nouveau monde, toi.
Mais ouais, moi,
ça, c'est macronien, ça.
Ouais. Je te fais une petite présentation en PDF après, si tu veux, Maxime. Non, c'est pas PDF.
PowerPoint.
Ouais. PDF. Ah, ouais. Non, mais je suis pas du tout là-dedans. Moi.
Ah ouais, là,
moi,
ouais. Je suis. Ouais, non, mais t'es journaliste. Hein. Bah, tu sais, quand j'ai un PowerPoint à faire.
Ouais, t'es pas bien.
Je le file à ma femme. Elle me le fait.
Pourtant, c'est le PowerPoint, il paraît. Hein, les machines, le repas. Toi, t'es pas du tout 2023, Maxime. Wow. Toi, t'es un.
Je suis sûrement. Un peu compacte. Je suis dans cette salle-là, assurément, le mec qui a sûrement, c'est même sûr, plus repassé dans la salle de cette.
Bah, moi, je repasse pas mes fringues. Si tu regardais les vidéos, tu verrais que. Mais tu regardes pas les vidéos, Maxime, sur le site. Tu vois bien que je suis pas. J'ai pas besoin d'être repassé parce que moi.
Ah, t'es pas flippé.
D'un, je suis pas flippé. Deux, j'ai cette classe naturelle qui fait que la moindre guenille, le moindre chiffon
c'est
sur moi. Ça devient un objet de mode.
Comme Brad Pitt.
Tu vois, voilà, comme Brad Pitt.
Ouais. C'est une chance.
Bah, je suis un peu le Brad Pitt de Rose pour
d'ailleurs. C'est Brad Pitt.
C'est ce que me disent tous mes chefs et ça tombe bien, t'es le mien. On passe au troisième sujet.
On va parler de l'Arabie Saoudite. La journée de jeudi a été marquée par une folle rumeur et un peu plus que ça. Qui n'est pas tout à fait étouffée, même si le principal intéressé a dit que Internet. C'est pas la vérité. On en reparlera.
Sauf chez nous.
Karim Benzema serait en relation avec l'Arabie Saoudite pour un possible transfert. Un transfert autour de 200 millions d'euros pour 2 ans, il me semble.
Le salaire, oui.
Et on se pose la question, est-ce que l'Arabie Saoudite est le nouvel Eldorado ? Alors, Eldorado financier, oui, mais Eldorado footballistique.
Alors, déjà, on va démarrer par un petit retour en arrière. Et en fait, c'est simplement pour se rendre compte de l'échelle. Pourquoi Ronaldo a cédé aux sirènes saoudiennes ? Pourquoi Messi hésite vraiment ? Pourquoi Benzema hésite vraiment ? On pourrait se dire, parce que là, on parle quasiment des 3 meilleurs joueurs des 10 dernières années, ou quasiment. On va reprendre du début. L'Arabie Saoudite, finalement, c'est le Qatar dopé aux hormones de croissance.
Déjà par la taille du pays.
Et puis, surtout, et c'est là le nerf de la guerre, par ce qu'il propose en termes de contrat. Les contrats offerts par le Qatar, je me suis un peu plongé dans les archives. Pour Xavi, quand il était entraîneur, c'était du 10 millions d'euros annuels. Pour Raoul, qui était évidemment l'attaquant de Schalke, mais aussi l'attaquant charismatique du Real Madrid pendant des années, le Benzema en gros des années 2000-2010, 4 millions d'euros annuels quand il est parti au Qatar. Et on va aller jusqu'à Gabriele Batistuta, qui était un des plus grands attaquants tournant 90-2000, pareil, lui, c'était 4,5 millions d'euros par an. Là, ce que propose l'Arabie Saoudite, Ronaldo, 200 millions d'euros par an, Benzema, 100 millions d'euros par an, Messi, 363 millions d'euros par an, et José Mourinho, 60 millions d'euros par an. Le joueur le mieux payé en MLS, c'est Shaqiri, hein, ça peut être considéré comme un autre championnat exotique, entre guillemets, 7 millions d'euros annuels, et le joueur le mieux payé d'Europe, c'est Kylian Mbappé, 72 millions d'euros. Donc, ce que je dis simplement, c'est que l'Arabie Saoudite définit une autre réalité salariale. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus sur les mêmes échelles que ce que proposait avant. Voilà, on disait qu'il va partir en retraite au Qatar, même en Arabie Saoudite avant, hein, mais ce n'était pas ces montants-là. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a un dessin qui va évidemment au-delà du football, il y a un projet qui va au-delà du football, qui entraîne toute la société saoudienne, tout le pays, qui fait qu'aujourd'hui, le football est devenu un instrument politique, qui permettent de débloquer des fonds qui sont franchement irréels. Ils multiplient les offres par 10, pas par 2, pas par 3, pas par 4, par 10. Ils visent des joueurs hors normes. C'est comme si Zidane avait terminé sa carrière au Qatar. C'est comme si Ronaldo, le Brésilien, avait fini sa carrière au Qatar, ce qui n'est jamais arrivé. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite définit quasiment un nouveau mode de pensée. Et c'est ce qui fait que ces joueurs-là hésitent.
Ouais, parce que tu parlais tout à l'heure du Qatar. Et souvenez-vous, tu parlais de Baptiste Touta, Leboeuf et compagnie. Quand ils y vont, c'est vraiment de la retraite. Là, on rigole, mais on se dit... Ils vendent même pas le projet sportif, on a très bien compris. Et puis après tout, pourquoi pas ? Les mecs ont 35, 36 ans, 37 ans, ils sont plus au niveau, bah, ils vont mettre un peu de rond dans les poches pendant quelques années au Qatar.
Mais ce qui est l'âge finalement de Ronaldo, Messi et Benzema, ouais, mais eux sont encore au niveau.
Oui, c'est ça, la grosse différence. Ça a changé qu'aujourd'hui, c'est des gens au niveau. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le Qatar, on a l'impression qu'il se faisait un peu plaisir. C'était des stades vides. Ils ramenaient les types pour distraire un peu la population. Et en plus, c'est
pour faire parler du Qatar aussi.
Alors, pas la première partie.
Pas la première partie, c'est
quand le Qatar a commencé à se mettre sur la Coupe du Monde que c'est devenu un enjeu important. Et justement, la Coupe du Monde, c'est le point commun entre les deux. C'est-à-dire que, regardez, 2030, voire 2034, la Coupe du Monde, j'en mets aujourd'hui ma main coupée, sera en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a commencé. En fait, ils sont en train. Vous pensiez avoir vu le pire avec le Qatar au niveau de toute la dépense de moyens pour récupérer la Coupe du Monde. Bah, l'Arabie Saoudite est en train de multiplier ça par X fois, tout simplement.
Par 10.
Ils veulent la Coupe du Monde. Philippe Auclair, notre chroniqueur, avait écrit il y a quelques semaines quelque chose sur Eurosport à ce sujet-là, où il expliquait très bien qu'il connaît très bien les arcanes de la FIFA et tout ce qui tourne autour, que l'Arabie Saoudite était en train de mener une offensive pour rallier. L'Afrique de son côté pour les votes, l'attribution de la Coupe du Monde qui sera l'année prochaine. Je crois que l'Afrique a 54 voix, il me semble, et que c'est quasiment un quart des votants. Et un quart des votants, ça commence à peser. Évidemment, la mission, là, ce que le PSG, ce que QSI Qatar a fait avec le PSG, l'Arabie Saoudite est en train de le faire avec des joueurs. Avec des montants qui sont fous.
Avec Newcastle aussi.
Avec Newcastle, mais ils sont beaucoup plus prudents avec Newcastle. Mmh. C'est marrant. Mais je pense que c'est aussi la régulation anglaise qui fait que. Et n'empêche que pour l'instant, ça fonctionne avec Newcastle Newcastle sera en Ligue des Champions. L'autre chose, c'est que justement, la différence d'échelle, comme je l'ai dit, le Qatar voulait. Au début, c'était un chemin de retraité il y a 20 ans, etc. Ça n'est pas plus loin. Là, en plus, il y a une vraie ambition. Alors, la curiosité que j'ai, c'est est-ce que ça marchera ? J'ai quand même un petit doute.
Moi aussi, parce que c'est quand même des joueurs qui sont tous. Alors, ils sont. Encore, on a le Ballon d'Or, donc on a le meilleur joueur du monde actuel, Karim Benzema.
T'aurais 3 des 4 derniers Ballons d'Or finalement.
Voilà. Donc, mais
les Ballons d'Or depuis 2008, pardon. Sauf évidemment Modric.
Et Modric qui est aussi convoité. Mais en fait, ce qu'on aurait là, c'est donc des joueurs qui sont quand même beaucoup plus compétitifs que ceux qui allaient au Qatar, mais quand même, ils ont tous passé les 35 ans.
Ouais.
Donc, ils vont pas s'attaquer à Mbappé. Ils sont pas complètement. Enfin, ils sont quand même réalistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mbappé, si tu lui proposes même 500 millions d'euros, il n'ira pas parce qu'il a encore des Ligues des Champions à gagner. Et Erling Haaland, c'est la même chose. Donc, il y a quand même cette résistance-là.
Mais là où ils sont malins, en revanche, j'avoue que là, par rapport à... C'est que Ronaldo, il l'a redit d'ailleurs, je crois qu'il a donné une interview hier ou avant-hier où il expliquait qu'il allait rester. Et il dit que le bilan, si on devient compétitif, l'Arabie Saoudite, c'est de devenir la 5e ligue du monde. Alors, je vous laisse imaginer devant laquelle il imagine que l'Arabie Saoudite peut passer. C'est pas très sympa pour la Ligue 1. Mais n'empêche que ça dit quelque chose. Ça dit qu'il y a une vraie ambition que le Qatar... n'a jamais vraiment eu finalement. Là vraiment il y a quelque chose presque d'inquiétant, c'est-à-dire qu'ils vont se donner des moyens complètement disproportionnés pour y arriver. Et ce qui est, si je dois donner un dernier bon point à l'Arabie Saoudite, au moins là-dessus, c'est qu'ils font venir les joueurs, mais là où ils sont beaucoup plus malins presque que le sport européen, c'est qu'ils ont décidé d'essayer de les dispatcher chacun dans un club pour donner de la compétitivité et de l'intérêt au championnat. Alors encore une fois, je ne suis pas sûr que ça prenne en Europe, parce que évidemment vous avez la Première Ligue, vous avez la Liga, la Ligue 1, la Bundesliga, la Ligue des Champions, il n'y a pas forcément besoin d'aller voir un autre championnat. Mais n'empêche que là-dessus, c'est plutôt bien pensé. Mais après, oui, les sommes, je ne veux pas parler d'indécence, parce que l'indécence, ce sont est dans le football au départ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes payé, vous avez un salaire de 10 ou 15 ans d'un salarié normal pour jouer au foot, on peut y voir une forme d'indécence, c'est ainsi. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a quand même une vraie offensive qui est faite par l'Arabie Saoudite.
Et la grosse différence avec le Qatar, c'est quand même l'Arabie Saoudite est un pays de foot. C'est un pays qui a participé à plusieurs Coupes du Monde, 6 Coupes du Monde, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui a atteint les 8e de finale en 1994. Et les stades sont pleins.
Ouais.
Et ils n'ont pas attendu l'arrivée de stars pour qu'il y ait quand même des rivalités entre les clubs. Donc, ce n'est pas quelque chose de complètement superficiel qui est monté à la hâte, un théâtre de marionnettes pour faire plaisir à quelques nababs. Non. Ça, c'est le point positif par rapport au Qatar. Après, la grosse limite, c'est que finalement, OK, il va y avoir une grosse compétition, même mais des gros joueurs. Mais la finalité, c'est quoi ? À partir du moment où tu ne participes pas aux compétitions européennes, qui sont quand même le point névralgique du football mondial, et là, je pense aux Coupes d'Europe, bah, ça va être très, très difficile de faire... Ça peut arriver, à terme. Mais voilà, je pense qu'il y a là une grosse limite. L'autre grosse limite, c'est qu'on le voit avec le Qatar. Une fois que la Coupe du Monde est passée, le championnat du Qatar, est-ce qu'aujourd'hui, ils vont mettre les mêmes moyens pour faire venir des stars ? Et si demain, l'Arabie Saoudite récupère la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde, est-ce qu'on poussera encore plus loin ? Là, ça dépend de la volonté d'un homme, qui est Mohamed Ben Salman, qui est le prince MBS. Héritier. Voilà, exactement, qui est le prince héritier. Donc voilà, c'est l'homme fort du royaume depuis 2017. Donc c'est lui, ça repose sur sa volonté à lui, une volonté politique. Mais derrière, il faut que ce soit solide. Il faut que ça dure, que ça perdure dans le temps. Là, on est quand même sur des coups encore de joueurs de 35 ans. À mon sens, ça ne suffit pas encore pour installer quelque chose qui sera pérenne.
Non, mais je pense pas non plus. Mais je pense encore une fois que leur objectif vraiment numéro un, c'est la Coupe du Monde, et de très loin. Et je le répète, 2030 ou 2034, si on pourrait se dire, 2030, oui, mais il y a le centenaire de la Coupe du Monde, ce serait bien de leur mettre en Amérique du Sud.
Ils s'en foutent, je pense.
C'est comme le centenaire des JO, c'était Atlanta, c'était pas Athènes. Et là, le symbole était assez dingue, parce que vous alliez dans la ville Coca-Cola versus Athènes, qui avait accueilli les Jeux 1896, et évidemment, créé les Jeux, etc., avec la Grèce antique. Donc voilà, je pense que le but, il est là, ça leur coûte très cher, mais pour eux, c'est pas tant que ça. Je me demandais, Martin, si je cherchais pas des journalistes à 1 million.
Moi, j'y vais pas.
Petit million.
Mais moi, je suis pas un homme d'argent, Maxime. Bah, tu le sais, hein. C'est toi qui signe mes feuilles de paie, donc tu sais que je suis pas un homme d'argent. Une fois que tu me payes, tu sais que moi, je fais ça par amour, pour la beauté, mais déjà pour faire plaisir aux gens. Et je pense que les gens, en toute modestie, s'y retrouvent. Voilà, c'est tout. On a terminé.
Bah, je vérifie mes fiches.
Bon, je ferai des photos des fiches.
Qui étaient encore plus mal organisées que d'habitude. J'ai un bout du sujet là. Ouais, non, qui est aussi en bas. Il n'y a rien à. Donc je vérifie. Bon, voilà. Ah oui, si je voulais parler des États-Unis, du cosmos, que ça a toujours été. Bon, on va laisser tomber.
On s'en fiche.
Ça ira bien comme ça.
Voilà. Bah, merci à tous. Merci à Antoine Le Breton, cousin de Clément Langlais.
Exactement.
Voilà, donc ça fait plaisir.
Et qui va aller se faire un petit yoga bière à Paris.
Exactement, un gros yoga bière. Merci à Quentin Guichard, petit-petit-petit-fils de Geoffroy Guichard, figure-toi.
Incroyable. C'est fou, hein.
Incroyable, on est entouré de personnalités. Et merci à Maxime Dupuis qui...
Personne.
Il n'y a pas d'ascendance.
Moi, je suis personne.
Ouais, il s'est fait tout seul, Maxime.
Et merci à Martin Mosnier qui aussi s'est fait tout seul d'une certaine manière.
Ouais, mais on se doute qu'il doit y avoir quelques divinités dans l'arbre généalogique quand on voit ce que je raconte, quand même. Ça vient pas tout seul. Il y a un don à la base.
Il y a quelque chose, c'est pas.
Il y a un don.
Ouais, ça peut. Il y a de l'ADN, il y a du gène, tu vois, c'est pas possible.
Il y a du boulot parce que voilà, charbonne.
Pourquoi il y a du. Ouais, c'est fulgurant, ces choses-là.
Il y a du don. On remontera un jour mon arbre généalogique et vous verrez. Ça va être magnifique. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du.
Ça va de la Creuse au Forez.
C'est très concentré Ouais, ça va pas beaucoup plus loin que Ronald Poverne, je pense.
Ouais, surtout à l'époque.
Surtout à l'époque, ouais. On bougeait pas. Je suis le premier de ma lignée à être allé dans la grande
ville. C'est un peu le.
Je suis bel ami.
Bougna qui est monté à Paris, tu vois.
Bel ami.
Rastignac.
Un peu de culture.
Le Rastignac du journalisme français.
Exactement. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles bêtises dans le FC Stream Team. Ciao, ciao.
Salut.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.